France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission qui décrypte les enjeux globaux de notre vie sur Terre. Comme chaque mercredi pour ce rendez-vous scientifique, nous sommes ensemble pour 55 minutes. Planète Terre et France Culture vous convient dans le nouveau musée de l'Homme, ou plutôt c'est le nouveau musée de l'Homme qui nous accueille, qui vous accueille, et on l'en remercie beaucoup. Il vient en effet d'ouvrir ses portes après 6 années de rénovation. Ce profond renouvellement muséographique met en scène un discours scientifique et éducatif sur l'espèce humaine. Il s'agit surtout de la spécifier par rapport à l'ensemble du monde vivant. En quoi l'homme est-il unique dans ce monde vivant? En quoi est-il spécifique? Mais il s'agit également de présenter l'espèce humaine par rapport à elle-même, de tenir un discours scientifique sur la différence qui est, disons, l'un des concepts clés qui nous permet de traverser l'ensemble de cette nouvelle exposition permanente. Sur les traces de l'espèce humaine, une visite au nouveau musée de l'homme, c'est le sujet de Planète Terre. Mettons donc nos pas dans ceux de 2 des conseillers scientifiques de l'exposition permanente, Dominique Grimaud-Hervé, qui est professeur au Musée de l'Homme. Je crois d'ailleurs qu'il faudrait dire très exactement professeur au Musée national d'histoire naturelle. C'est bien ça, Dominique Grimaud-Hervé?
Oui, tout à fait. Et au département de préhistoire.
Voilà, et vous êtes donc paléontologue, c'est comme ça qu'on dit?
Non, on dit paléo-anthropologue.
Ah là là. Vous êtes donc paléo-anthropologue. Nous sommes avec Christian Grataloup, qui est professeur de géographie à l'université Paris Diderot. On appelait ça avant Paris 7, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, Paris 7, Paris 7, Denis Diderot.
Et donc, sauf erreur de ma part, vous êtes le géographe de cette immense équipe qui a travaillé...
Petit rôle.
Un tout petit rôle, en particulier sur la partie 3. Tandis que vous, Dominique Grimaud-Hervé, vous avez en particulier travaillé sur la partie 2.
Et oui, j'ai un petit peu coaché l'ensemble de cette partie 2, d'où venons-nous?
D'où venons-nous? Tandis que la partie 3, Christian Grataloup...
C'est où allons-nous?
Où allons-nous? Hein, vous comprenez, chers auditeurs, on va surtout se consacrer aujourd'hui à 2 des 3 parties de ce musée, puisqu'il y a une troisième partie qui s'intitule « Qu'est-ce que l'homme ? Qui sommes-nous ? » Alors, je vous propose peut-être, pour commencer, que nous nous rendions dans un endroit assez spécial, qui s'appelle le balcon des sciences. Qu'est-ce que c'est que le balcon des sciences, Dominique Grimaud-Hervé?
Eh bien, le balcon des sciences, c'est un endroit où on a essayé d'exposer les différentes missions de ce musée laboratoire, avec donc toutes les recherches qui étaient exposées, avec les différents acteurs à tous les niveaux, allant du terrain avec les collectes jusqu'à l'étude des objets qui étaient recueillis et jusqu'à l'article scientifique publié. Il y a également une présentation des collections, les collections matérielles, hein, donc les objets, les données et également les collections immatérielles, les sons, les vidéos.
On est là devant, en tous les cas, un des 80 écrans du nouveau musée de l'Homme. Celui-ci s'appelle « Biologie et environnement des sociétés ». Et puis, il y a une grosse boîte, émotion, musique, parole. Et effectivement, quand on met en marche cette animation multimédia, on a surtout des sons, puis il y a écrit « collection immatérielle ». Alors là, par exemple, on voit le carnet de notes, prise de notes en Égypte en février 2012. Vous, en tant que paléo-anthropologue, Dominique Grimaud-Hervé, ça vous arrive, vous aussi, d'avoir vos petits carnets de notes et on peut en trouver
quelques traces ici? Oui, bien sûr. Ben, les carnets de notes, c'est les carnets qu'on a lorsque l'on part en mission sur le terrain et sur lequel on note tout ce que l'on voit, tout ce que l'on trouve. Et c'est très important parce que une fois la mission terminée, si on n'a pas tout noté, eh bien, on oublie et après on ne peut plus interpréter. Donc il peut y avoir des carnets de notes lorsque l'on fouille, bien sûr. Il y a des relevés de terrain. On fait également des photos, des dessins. et on essaye de relever le maximum de choses au cours de cette fouille en particulier, hein, puisqu'en ce qui me concerne, il s'agit de fouilles de gisements préhistoriques, puisque évidemment, lorsque l'on fouille un gisement, on le détruit. Donc une fois que la fouille est terminée, si on n'a pas relevé le maximum de données, eh bien, on ne peut plus revenir en arrière.
Et du coup, j'en profite, Dominique Grimaud-Hervé, c'est quoi la différence entre paléontologie et paléoanthropologie ?
La paléoanthropologie, c'est l'étude des hommes fossiles, et la paléontologie, c'est l'étude des fossiles en général, donc de la faune.
Donc en fait, ça veut dire que vous êtes une préhistorienne de l'homme.
On peut le dire comme ça.
Christian Grataloup, alors vous, je ne sais pas si lorsque vous faites du terrain, vous avez vous aussi des carnets de notes et si vous collectez des sons celui qu'on va entendre dans l'émission qui vient d'ici.
Oui, enfin, être un peu un historien de la mondialisation. Je suis plutôt un homme d'archives.
Géo-historien.
Voilà. Je voulais dire un mot du lieu précis où nous sommes.
Bien sûr.
Parce qu'on est dans une partie du Musée de l'Homme où on voit très très bien la structure du palais du Trocadéro, dans la mesure où la verrière remonte alors à la fin du 19e, parce que je crois que ce n'est pas celle du bâtiment originel de 1878. Mais enfin, on est dans la structure du Trocadéro que le bâtiment de 1937 que l'on voit ne fait que recouvrir. Et là, on a un lieu qui donne donc sur l'atrium, la partie d'entrée du musée, qui est une structure à la fois très très classique, un atrium, et qui a été aménagé avec par l'architecte de la rénovation du bâtiment, avec ces espèces d'élytres de bois qui sont absolument super. Et qui protège le balcon des sciences.
Pouvez-vous nous décrire ces élytres ? Parce que on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est rien qu'en l'entendant.
C'est une structure d'environ 3 mètres de haut, de bois qui forme une courbe comme une demi-voûte qui recouvre l'ensemble des terminaux informatiques sur lesquels on peut faire les consultations scientifiques, par exemple des carnets de notes de Dominique Grimaud.
Peut-être que c'est l'occasion de dire que dans le nouveau musée de l'homme, ce qui est très très frappant, c'est la lumière. Là, ce balcon des sciences, donc on est, je crois, je ne sais pas à quel étage on est, au deuxième d'après ce que je vois ici sur la porte de l'ascenseur, sachant que le bâtiment en contient en tout 4. Le troisième, Dominique Grimaud-Hervé, puisque vous travaillez ici, est consacré au centre de recherche, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait, ce sont les bureaux, les laboratoires.
D'ailleurs, il y a un très beau livre qui vient de sortir sur le musée de l'homme qui raconte son histoire et qui s'appelle Le musée de l'homme, un musée laboratoire. C'est ce beau livre à couverture grise qui a été. Dirigé par Claude Eckert.
Oui, qui raconte.
Mais pourquoi ce terme de musée laboratoire ?
D'abord, dès 1878, quand on a créé le musée d'ethnographie, dans un contexte évidemment qui était celui du 19e siècle, colonial, voire raciste, le musée était déjà un musée de l'instruction publique, et non pas de ce qui deviendra la culture ultérieurement. Donc on est toujours dans un musée qui relève de l'enseignement supérieur et de la recherche, enfin du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, occasionnellement d'ailleurs dans le contexte des répartitions des tâches actuelles, également de celui de l'environnement, mais il ne relève pas du ministère de la culture. Ce qui est très très différent au point de vue de la structure, et c'est un prolongement du Muséum d'Histoire Naturelle, du Jardin des Plantes, ce qui pose le problème d'ailleurs de sa pensée, de sa mise en scène évolutionniste éventuelle, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Bien sûr.
Et c'est quelque chose qui en fait une structure unique, où à la fois l'exposition, c'est-à-dire la pédagogie, dans une certaine, et la recherche ont partie liée. Effectivement, commencer ici par le balcon des sciences, c'est commencer par le chaînon manquant, le lien entre recherche et pédagogie.
Et en tous les cas, on suppose que ça sera l'endroit, peut-être pas privilégié, mais en tout cas l'espèce de point de convergence de toutes les classes et de tous les professeurs, notamment du secondaire, mais aussi du primaire, puisque c'est un peu ici, Dominique Grimaud-Hervé, je suppose qu'il peut y avoir ces espèces de temps d'appropriation et d'élaboration des connaissances qu'on peut tirer de tout ce qui a été vu lorsqu'on vient visiter le musée, qui s'appelle en fait, l'exposition permanente s'appelle la Galerie de l'Homme, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait, la Galerie de l'Homme. Et donc, pour en revenir au balcon des sciences, effectivement, il y a quelques petits postes qui permettent de visualiser en particulier les dernières découvertes, hein, donc qui sont remises à jour constamment. Et qui permettent donc d'être à jour dans nos connaissances.
Voulez-vous nous donner un exemple ?
Un exemple, la découverte.
On peut y aller d'ailleurs.
Hein. Oui, je ne sais pas où il est.
Il faut quand même le dire à tous ceux qui nous écoutent, en faisant le tour de ce balcon, pendant qu'on cherche. Cette animation multimédia sur les dernières découvertes, on a un espèce d'effet très saisissant, puisque à travers les fenêtres du balcon, on voit la tour Eiffel et on voit l'esplanade du Trocadéro. Et ça, je crois que c'est quelque chose de nouveau, hein, cette espèce de manière.
Il a été volontairement le plus ouvert possible sur la ville. C'est presque une concurrence déloyale, d'ailleurs, vis-à-vis des collections, parce qu'on a plus tendance à regarder à travers la fenêtre et à tourner le dos.
Oui, mais on
a masqué parfois les fenêtres, enfin, en tout cas, mis des rideaux.
Mais vous savez, Christian Grataloup, c'est un petit peu comme le nouveau Louvre. Enfin, évidemment, on ne peut plus l'appeler nouveau, le Louvre, puisqu'il a quand même ouvert il y a quand même un certain temps maintenant. Mais le Louvre, c'est pareil, notamment lorsqu'on est dans la galerie Puget, hein, on voit les statues sont à l'intérieur et à l'extérieur on voit passer les gens, et donc quand on est sur le trottoir rue de Rivoli, on ne sait plus si les statues sont les hommes qui, et les passants du trottoir, et si les passants ne sont pas les statues qu'on voit dans le salon Puget. Voilà, donc c'est un peu pareil ici, cette manière de...
Oui, il y a aussi une chose purement technique, c'est que maintenant on sait faire des verres qui filtrent les ultraviolets qui peuvent dégrader les objets exposés, donc ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc il fallait effectivement des rideaux, des précautions.
Dominique Grimaud-Hervé.
Donc là on est devant la vidéo qui nous raconte les dernières découvertes. Donc là par exemple on a fait un petit texte pour informer sur la dernière découverte qui a été faite en Afrique du Sud, sur les restes qui ont été attribués à Homo naledi, donc où on a plus de 1550 ossements qui ont été découverts au fond d'une grotte, tous entremêlés, qui correspondent environ à une quinzaine d'individus, sans contexte archéologique, donc sans faune, sans industrie, et donc qui n'ont pas pu être datés et qui ont donc été attribués à une nouvelle espèce. Donc voilà, ça nous semblait important, puisque c'est paru dans la presse, que les personnes soient au courant de cette découverte. Ou encore, une autre découverte qui a été faite cet été, qui correspond à cette dent qui a été trouvée dans le gisement de Totavel et qui est datée, elle, de 560 000 ans. Donc c'est très ancien, hein, puisque c'est proche de la datation de la mandibule de Mauer, donc qui est l'un des plus anciens restes d'Homo heidelbergensis, donc les restes fossiles européens qui précèdent les Néandertaliens.
Et donc, vous expliquiez que cette espèce de mise à jour, c'est presque un peu comme un fil d'une agence de presse.
Exactement.
On va pouvoir se tenir au courant.
Tout à fait.
En venant ici régulièrement.
Exactement. Là, il y a une dizaine de découvertes qui sont relatées entre des découvertes préhistoriques, mais aussi des découvertes biologiques, les ventes, par exemple, d'animaux, ou encore la disparition d'espèces.
Ben donc, en tous les cas, on comprend que le Balcon des Sciences est à la fois un endroit dédié à la pédagogie, mais aussi à la mise à jour des connaissances. Et finalement, c'est ici que se fait le contact entre la recherche
exactement,
en train de se faire et les grands publics.
Et il y a encore une autre vidéo là-bas, sur laquelle on peut voir tout le trajet, toute la démarche qui est suivie par un objet à partir du moment où il est collecté jusqu'à l'article scientifique. Donc s'il s'agit d'un sédiment, la façon dont on fait le prélèvement, comment ensuite il est emmené dans le laboratoire, quelle méthode on analyse pour pouvoir l'étudier, le dater, le replacer, s'il s'agit de paléo-environnement, de datation ou autre, jusqu'à la production de l'article scientifique. Donc ça apprend aussi au public la relation entre le terrain que l'on fait et puis tout le travail que l'on doit faire ensuite en laboratoire pour aboutir à un résultat. Les prélèvements que l'on peut faire, ce sont des prélèvements sédimentologiques. Donc là, évidemment, bien sûr, on a les autorisations pour les faire. Et ces sédiments, ensuite, sont détruits. Donc évidemment, là, on ne peut pas les produire.
Et alors, les objets qui sont dans les collections du Musée de l'Homme et ceux qui sont montrés ?
Les collections qui sont aujourd'hui présentes et présentées au grand public proviennent des chercheurs qui ont rapporté les collections à Paris. Voilà. Et maintenant, on ne fait plus
maintenant,
ça du
plus
tout.
Ça. Voilà. Oui, donc effectivement, il y a bien un lien entre les collections dont on peut dire que nous, humains d'aujourd'hui, avons hérité, et puis cette période que Christian Grataloup évoquait tout à l'heure, à savoir que la recherche, d'une certaine manière, se faisait un peu dans les bagages des conquêtes coloniales.
Tout à fait.
Voilà.
Exactement.
Et simplement, le paradigme scientifique et de la recherche a changé aujourd'hui. Et un des intérêts du Musée de l'Homme, c'est à la fois de montrer ses collections puisqu'on les a et de montrer aussi que maintenant, on les considère tout à fait différemment.
Le nouveau Musée de l'Homme est un regard sur le regard qu'on pouvait avoir. Enfin, en tout cas, une bonne partie des expositions sont sur le regard qu'on avait autrefois et naguère sur l'homme ancien.
Alors, rendons-nous justement dans cette fameuse Galerie de l'Homme. Pendant qu'on s'y rend, j'ai quand même... Galerie de l'Homme, évidemment, ça ne peut pas ne pas faire penser à la grande galerie de l'évolution du Musée national d'histoire naturelle dont le Musée de l'Homme dépend. Ça a été fait exprès, Christian Grataloup. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais qu'est-ce que vous en pensez en tous les cas ?
Ah, tout à fait. Non, mais c'est un débat extrêmement important qui est un débat tout à fait contemporain cette fois-ci. En 1937, lorsque le musée a été créé, il ne pouvait pas ne pas être évolutionniste dans sa pensée et sa mise en scène. C'était de ce fait d'autant plus fort qu'il était le prolongement du Muséum d'Histoire Naturelle dont le cœur est la galerie de l'évolution, disons darwinienne pour être simple. Et le Musée de l'Homme était un musée de l'évolution anthropologique, l'anthropologie physique de l'homme, mais également un musée de l'évolution de ces objets puisque très vite apparaissaient de l'outillage, comme dit ma collègue, apparaissaient des artefacts que les hommes pouvaient produire, des peintures, de l'habitat, il y a eu le feu évidemment. Donc on avait toute une idée du progrès. C'était ce qu'aujourd'hui on appellerait rétrospectivement un régime d'historicité moderniste, futuriste. Là, c'est-à-dire tourner vers une évolution, voilà, la flèche du temps, une flèche unique, et non plus comme on dirait aujourd'hui, buissonnante, une flèche qui allait vers un mieux, avec un âge d'or qui était dans le futur et non pas dans le passé, comme autrefois on aurait pu le penser. Donc, la galerie de l'évolution a été constamment construite sur ce progrès. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est venu prendre au Musée de l'Homme, traumatisme fondateur du nouveau Musée de l'Homme, les objets qui ont été emmenés de l'autre côté de la Seine à Branly, la rupture était forte.
Au musée du Quai Branly, donc. Hein.
Le musée, plus exactement, si on prend son titre exact, le musée des civilisations des Amériques, d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Il n'y a pas d'Europe.
Donc, parce que l'Europe est au Mucem.
Voilà,
parce que
l'Europe est en dehors, justement, de ce qui on n'appelle plus aujourd'hui les primitifs. C'est un musée des autres, néanmoins. Lorsqu'on a eu cette rupture, l'organisateur des collections a vraiment pensé qu'il ne fallait plus le faire, on ne peut plus construire un musée d'une manière évolutionniste. Donc on a un musée qui est présentiste, pour employer toujours le vocabulaire épistémologique contemporain, c'est-à-dire qui met tout à plat, et qui donc a un titre, en prenant les noms des vieux continents, a un titre qui est celui géographique, qui met au synchronique. Ce qui est intéressant, c'est que le nouveau Musée de l'Homme, lui, continue à avoir, ou reprend l'idée d'une galerie, d'un foisonnement, d'une historicité, mais le fait d'une manière qui n'est plus l'évolutionnisme de Naguère, qui ne sous-entend pas qu'il y a progrès, mais qu'il y a changement. Et un changement qui est multiple et divers. Et c'est vraiment ce que cette galerie de l'homme, peut-être pas de la femme,
La question doit
mais,
être posée.
Cette galerie de l'homme, c'est celle de l'évolution des hommes, des différentes formes d'hommes, au sens des différentes formes anthropologiques, comme Dominique Grimaud pourra nous le rappeler, mais aussi des différentes formes sociales d'être humain.
Alors précisément, vous avez évoqué, Christian Grataloup, un mot qui, je crois, est très important, Dominique Grimaud-Hervé, dans ce musée, c'est le mot de buisson ou de présentation de l'évolution de l'homme comme étant, faut-il dire, buissonnière. Évidemment, c'est un peu gênant dans un musée de l'éducation nationale d'employer... Il faudrait pas que les auditeurs pensent que quand on vient ici, on fait l'école buissonnière, n'est-ce pas ?
C'est pas buissonnière, c'est buissonnante.
Alors, on est mercredi après-midi.
Hein, donc, il n'y a pas de risque de confusion.
Non, aucun.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, surtout qu'on arrive là, maintenant, donc on est dans la deuxième partie de ce musée, encore une fois, qui comprend trois grands espaces. Vous le disiez tout à fait au début, Dominique Grimaud-Hervé, on est dans cette partie qui est d'où venons-nous, n'est-ce pas ?
Oui, et donc le but de la présentation ici, c'était de montrer que l'évolution de l'homme n'est pas linéaire. Hein, pour justifier l'ouverture du musée de l'homme, comme vous me demandiez tout à l'heure, précédemment, le schéma qui était présenté dans l'ancien musée de l'homme, c'était un petit peu, les espèces se succédaient les unes par rapport aux autres, sans lien vraiment, et voilà. Mais en 20 ans, évidemment, on a eu énormément de découvertes.
Vous dites en 20 ans, c'est-à-dire que vous faites référence à cette période où le musée de l'homme n'était pas encore sur le point de fermer, mais presque il y a 20 ans.
Non, c'est-à-dire que l'ancienne exposition qui était présentée au musée de l'Homme, donc le musée de l'Homme a fermé en 2009, l'exposition qui était présentée datait un petit peu, quoi. Et donc ce qui était présenté montrait une évolution un petit peu linéaire de l'Homme. Et donc ici, on a vraiment voulu faire comprendre au public que cette évolution de l'Homme n'est pas du tout linéaire, mais qu'elle est buissonnante, c'est-à-dire qu'à un même moment, on peut avoir plusieurs espèces en même temps, dans un même lieu.
Plusieurs espèces d'hominidés, donc.
Tout à fait.
Ah oui, parce que vous savez que, c'est un peu contre-intuitif pour les profanes d'apprendre qu'il y a plusieurs espèces, peut-on dire, d'hommes.
Oui, on peut. On peut. Pour les périodes récentes et pour les périodes plus anciennes, on a des paranthropes, c'est-à-dire les Australopithèques robustes, qui sont présents en même temps que les premiers représentants du genre Homo, c'est-à-dire les Homo habilis.
Alors, est-ce que vous pouvez essayer de nous dire verbalement comment vous avez conçu telle ou telle de ces vitrines pour justement bien faire passer ce message d'une évolution buissonnante et non plus linéaire. Qu'est-ce que vous avez envie de décrire ici ? Là, on voit un certain nombre de crânes tout à fait impressionnants et présentés de façon, comment est-ce qu'on pourrait dire, très conviviale finalement. Hein, et ça s'intitule « Le berceau africain tropical ». Il y a une grande frise chronologique, hein, Christian Grattalou, on a quand même une frise chronologique.
Elle n'est pas linéaire, il y a des superpositions de moments de vie des différentes espèces.
Voilà, ça me fait plaisir parce que M. Grattalou, qui n'avait pas vu, voit cette contemporanéité des espèces. Donc c'est un peu le but. Donc on a divisé l'évolution de l'homme en 4 grands plateaux. On est ici sur le deuxième plateau, donc qui est compris entre 4 millions et 2 millions d'années, où l'on va commencer à voir l'apparition des premières espèces d'Australopithèques, donc à partir de 4 millions d'années. À 3 millions d'années, on va avoir une crise climatique avec un assèchement de l'environnement. Et il va donc y avoir 2 réponses biologiques à cet assèchement. D'une part, une robustesse incroyable avec l'apparition des paranthropes, c'est-à-dire les Australopithèques robustes, et d'autre part, l'apparition des premiers représentants du genre Homo, donc les Homo habilis, dont le plus ancien date de 2,8 millions d'années.
Vous pouvez, Dominique Grimaud-Hervé, nous décrire l'un de ces australopithèques, ou du moins ce qu'on en voit ici.
Ce paranthrope, il est très très robuste. Il a une denture qui est impressionnante, avec des dents qui sont très très volumineuses, très massives. Il a des insertions musculaires qui sont très importantes, avec en particulier en haut du crâne une crête sagittale qui sert d'insertion donc aux muscles masticateurs. Donc ça, c'est la première adaptation. Et la seconde adaptation, c'est donc l'Homo habilis, avec finalement l'émergence de la locomotion et de la station bipède permanente. Hein, ce sont les premiers représentants du genre Homo à se déplacer de façon permanente sur leurs 2 pieds. Hein, tous les Australopithèques qui étaient présents précédemment pouvaient marcher debout lorsqu'ils en avaient besoin, mais ils avaient gardé des capacités à l'arboricolisme, c'est-à-dire que lorsqu'ils en avaient besoin aussi, ils pouvaient se réfugier et monter dans les arbres. Donc on peut voir sur ce berceau africain tropical qu'à un même moment, même dans un même gisement, on peut avoir des représentants de ces 2 adaptations biologiques, c'est-à-dire des paranthropes et des Homo habilis, donc au même endroit et au même moment.
Et pourquoi ont-ils été représentés sur les grands cartels qui nous permettent de comprendre, disons, pourquoi tel crâne a été présenté ici ? Pourquoi est-ce que les silhouettes de ces paranthropes sont, comme s'ils étaient des ombres, en fait ? Est-ce que ça veut dire que vous avez refusé, dans le nouveau musée de l'Homme, de jouer le jeu de la reconstitution ? Tel qu'on peut le voir, par exemple, je pense à Düsseldorf ou ailleurs, où on fait comme si on pouvait imaginer et représenter aujourd'hui, avec des statues, ce qu'étaient nos lointains cousins.
Oui, c'est un petit peu le choix qui a été fait. Là, sont présentés uniquement les éléments squelettiques types, hein, qui peuvent parler finalement au grand public et qui ont été présentés en hauteur, hein, pour qu'un maximum de personnes puissent le voir lorsqu'ils sont proches du plateau.
Ce que vous voulez dire, Dominique Grémaud-Hervé, c'est que très concrètement, les crânes de ces paranthropes sont à la hauteur des nôtres.
Voilà, exactement.
C'est comme si on se regardait les yeux dans les yeux, sauf que là, il n'y a que des orbites en face de nous.
Exactement. Mais la stature n'est pas représentée, hein, c'est-à-dire que les paranthropes n'étaient pas aussi grands.
Ils faisaient combien, si on le sait ?
Environ 1m50.
1m50.
Voilà, et donc sur le sol sont représentées les silhouettes qui sont plus ou moins précises selon le nombre d'ossements que l'on a. C'est-à-dire que si on a des éléments squelettiques correspondant à l'ensemble du squelette, la silhouette est précise. Et si par exemple on a juste un petit fragment, la silhouette est plus floue. Et donc pour chacun des spécimens représentés, on a établi un cartel avec les caractéristiques de l'espèce d'une part et les caractéristiques du spécimen d'autre part. Et donc on a une frise chronologique qui nous permet de situer les espèces les unes par rapport aux autres sur le mur du plateau, avec une petite vidéo qui retrace un petit peu l'évolution et les différents phénomènes qui se sont passés, aussi bien environnementaux que biologiques, et qui permettent au public de comprendre la présence et la contemporanéité de ces espèces.
On a découvert chez les hommes et les femmes d'aujourd'hui, de tous les continents, sauf de l'Afrique, des traces très faibles mais bien présentes du génome de Néandertal. On se doutait que les hommes et les femmes modernes, en sortant d'Afrique il y a environ 100 000 ans, avaient dû rencontrer les hommes et les femmes de Néandertal qui vivaient déjà depuis longtemps au Moyen-Orient.
Précisément, la contemporanéité sur une frise chronologique, c'est un peu contre-intuitif. C'est ce que vous vouliez dire tout à l'heure, Christian Grataloup, en disant que c'est une frise, j'ai presque envie de l'appeler post-moderne, c'est une frise en fait qui ne restitue pas le temps comme étant une évolution linéaire.
Non, parce que l'évolution biologique n'est pas linéaire. C'est ce que se traduit le mot buissonnant. Oui, il s'agit effectivement de montrer la simultanéité. Par exemple, à 2 millions d'années, là, vous avez 5 espèces dont on a des témoignages et qui étaient coprésentes uniquement en Afrique. Vous avez
alors
là...
Ça, c'est le géographe qui parle uniquement en Afrique. Alors, est-ce que ça a un sens de parler d'une géographie des hominidés ? Ou est-ce que...
Ça dépend ce que tu entends par mot géographie. S'il s'agit d'un milieu naturel, oui, il y a une géographie qui est liée à une certaine tropicalité, relative, climat alterné. C'est aussi un lieu d'une espèce. Toutes les espèces vivantes sont généralement géographiquement très situées. C'était le cas de l'espèce humaine. C'est ultérieurement qu'on aura des processus de diffusion au-delà de ce qu'on appelle maintenant l'Afrique.
Alors, c'est la raison pour laquelle il y a un plateau suivant qui s'intitule « Les hommes sortent d'Afrique ». Alors, c'est marrant parce que c'est un peu ambigu, ou en tout cas ambivalent, comme formule « Les hommes sortent d'Afrique ». Est-ce que j'imagine que c'est fait exprès. Vous avez à la fois voulu dire qu'il y a un moment donné dans l'histoire de l'espèce humaine où les hominidés sont sortis d'Afrique au sens où ils ont changé de continent. Il y en a qui sont restés en Afrique, et puis d'autres qui ont commencé à aller ailleurs. Et puis en même temps, on entend aussi... Quand on lit, encore une fois, ce grand kakémono « Les hommes sortent d'Afrique », on entend aussi que c'est comme si l'Afrique était la matrice, finalement, de l'espèce humaine. Est-ce que je surinterprète ?
Non, c'est tout à fait exprès. Effectivement, jusqu'à 2 millions d'années, on ne trouve des restes d'hominines qu'en Afrique. Et c'est à partir de 1,8 million d'années qu'on va commencer à trouver des restes fossiles hors d'Afrique, et en particulier sur le gisement de Manissi en Géorgie, et uniquement là, hein, 1,8 million uniquement là. Et donc, c'est très important ce gisement de la Géorgie parce qu'il se situe au carrefour entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et ensuite, les restes les plus anciens que l'on trouve, c'est en Asie à 1,5 million et en Europe à 1,2 million. Donc évidemment, la question qui se pose, c'est de savoir d'où ils viennent. Est-ce qu'ils sont le fruit d'une nouvelle sortie d'Afrique ou est-ce qu'ils viennent de Géorgie ? Donc ça, on n'en sait rien.
Et pourquoi vous dites évidemment, c'est la question qui se pose ? Et puis j'ai envie aussi de la poser aux géographes, parce que là, on fait bien de la géographie d'une certaine façon, en disant, à un moment donné, on était là, et puis après, on était là, et on ne sait pas si on a été là en même temps ou en venant de là. Mais c'est de la géographie ou pas ? Christian Grataloup ?
Oui, c'est de la géographie, puisque c'est une question de diffusion. Ah. Donc, c'est un problème tout à fait géographique.
Donc, de route et de mobilité.
De route,
déjà.
De mobilité. Et d'abord, voilà, de par où peut-on passer ? Là, on a presque un pont avec la cité de l'immigration, de l'autre côté de Paris. C'est le fait, puisque nous sommes devant une vidéo qui décrit les variations environnementales, qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas la géographie naturelle contemporaine avec des forêts, des déserts, des mers, là où elles sont aujourd'hui. Que la mer Rouge a pu s'assécher, que le golfe Persique est récent. Donc que ce que nous voyons comme des obstacles ne l'était pas forcément. Que les voies de passage qui pouvaient être des milieux... de prairies, disons, pour aller vite, savanes, steppes, etc., par lesquelles pouvait plus facilement passer cette espèce très mobile qu'est l'espèce humaine, et qui, grâce à ses artefacts, va s'émanciper de son milieu bioclimatique originel de savane chaude. À partir de cela, va pouvoir effectivement se diffuser là où les distances, les franchissements n'étaient pas trop considérables. Donc dans l'Eurasie, l'Afrique, l'Afrasie, enfin l'Ancien Monde.
Et pourquoi Dominique Grimaud-Hervé, c'est si important de savoir si, à un moment donné, il y a des humains qui sortent de Géorgie ou au contraire, si ceux qui sont arrivés en Géorgie sortent d'Afrique? Vous avez dit tout à l'heure, c'est très important. Pourquoi c'est très important?
C'est très important parce que ça nous renseigne sur l'histoire des peuplements humains. Donc, comment se sont constitués les premiers peuplements asiatiques, c'est important de connaître leur origine, si cette origine est de Géorgie ou si elle est d'Afrique. Juste pour savoir, quoi. C'est important parce que c'est notre discipline et qu'on veut tout savoir.
Et on a besoin de connaître nos origines. Mais ça, c'est un des propres de l'homme. Non, d'ailleurs, c'est dit à un moment donné dans le musée, l'homme a une conscience de lui-même. Parce que enfin, Christian Grattalou, vous vouliez dire quelque chose avant que
oui,
je
non, c'était parce suivante. Que Dominique Grimaud est une scientifique très contemporaine et donc elle est monogénique.
Pourquoi ça, monogénique?
Parce que autrefois, il n'y a pas si longtemps, et peut-être n'est-ce pas totalement disparu dans la conscience d'un certain nombre de réflexions, même scientifiques, on se demandait si l'homme n'était pas polygénique, c'est-à-dire si l'espèce humaine contemporaine, l'Homo sapiens, n'était pas apparue plus ou moins simultanément dans différents lieux en même temps, y compris sur différents continents, ce qui était une manière de supposer le peuplement de la Terre.
Ce qu'on appelle l'évolution multirégionale.
Voilà. Or, aujourd'hui, on part quand même de l'idée que l'homme est africain d'origine et ensuite c'est diffusé par migration. Voilà, c'est le paradigme dans lequel travaillent justement les paléo-anthropologues.
Ah, vous voulez... Allez-y, Dominique Grimaud-Hervé, je poserai ma question après, puisque là nous sommes devant... Décrivez-nous ce squelette devant lequel nous sommes.
Alors ce squelette, c'est le squelette de Nario Kotome. C'est donc un enfant dont l'âge avait été estimé à 12 ans d'après sa stature, qui vient du Kenya et qui a été trouvé en Afrique, hein, dans un gisement de l'est, du ouest Turkana au Kenya. Et donc son âge avait été estimé à 12 ans d'après la stature. Et depuis, de nouvelles études ont été faites sur les dents, hein, les structures internes dentaires. Vous savez que la croissance des dents se fait par apposition et qu'on peut calculer l'âge donc d'un individu en calculant le nombre de stries de croissance, comme le tronc d'un arbre. Hein. Et donc l'âge qui a été déterminé pour cet individu est de 8 ans seulement.
Et là, on voit toutes les dents.
Et donc, on était très surpris.
Il a quel âge, ce fossile?
On était très surpris d'apprendre que cet enfant, finalement, n'avait pas 12 ans, mais 8. Avec cette stature très importante. Et donc, le résultat important de cette étude est que la croissance de ces individus était plus rapide que la nôtre, c'est-à-dire qu'ils devenaient adultes beaucoup plus tôt que nous. Et donc, ça, c'est vraiment un résultat incroyable.
Et donc, il vivait il y a combien d'années, cet enfant dont nous avons sous les yeux le squelette?
Reconstitué, 1,047 million.
C'est incroyable. Comment vous faites, Dominique Grimaud-Hervé, pour arriver, vous et vos collègues, à une datation, j'ai presque envie de dire, aussi précise?
Ça, c'est le travail des dateurs, hein, ou des géochronologues. Et c'est bien pour vous faire comprendre que tous les résultats qu'on obtient ici, ce sont les résultats d'une étude interdisciplinaire qui mêle aussi bien les géochronologues, donc pour la datation, les environnementalistes, donc ils travaillent sur la faune, sur la flore, sur les sédiments. Et donc, c'est vraiment la synthèse de tous ces résultats qui nous permettent de comprendre la présence d'un homme fossile sur le site.
Et vous lui avez donné un petit nom à ce squelette de garçon, de garçonnet?
Turkana Boy.
Et pourquoi?
Mais ce n'est pas moi qui ai donné ce nom. Bah, Turkana, c'est le nom du gisement où il a été découvert. Donc c'est le lac Turkana à l'ouest
Le garçon de Turkana.
D'accord. Et alors donc je voulais ajouter sur ce plateau que ici encore on a contemporanéité des espèces puisque on a des Homo erectus en Asie, on va avoir des Homo antécesseurs puis des Homo heidelbergensis en Europe, et alors que en Afrique cet Homo ergaster va évoluer vers l'Homo sapiens archaïque. Donc selon les continents, là, on va avoir des espèces différentes qui seront contemporaines, qui vivent en même temps, pas dans les mêmes lieux, mais qui vivent en même temps.
On est dans un musée où tout nous explique. Il y a presque un discours, il y a même un discours militant, hein, si j'en crois l'article écrit dans ce très joli livre qui vient d'être publié chez Autrement et qui s'appelle « Devenir humain », qui a été dirigé par Yves Coppens, avec une dizaine de contributeurs. Et la dernière contribution est écrite par Cécile Aufort, qui est la conservatrice en chef du patrimoine et donc la conservatrice du Musée de l'Homme. Et elle va jusqu'à dire, hein, dans ce bouquin, encore une fois, qui vient de paraître chez Autrement, elle va jusqu'à dire qu'il y a un discours pédagogique, éducatif, avec le Musée de l'Homme. Ça, c'est une vieille tradition. Christian Grataloup, vous l'expliquiez tout à l'heure, hein, au moins depuis 1937. Mais elle parle même de discours militants. Donc j'en viens à ma question, Dominique Grimaud-Hervé. Tout dans ce musée nous dit que la diversité est une valeur positive, que ce soit en termes de culture ou en termes, disons, physico-biologiques. Et en même temps, comme vous nous l'expliquez depuis tout à l'heure, et quand on regarde ces plateaux, on nous dit qu'il y a bien un homme, est-ce qu'on peut dire une espèce humaine. D'où ma question, comment différenciez-vous cet Homo erectus, de l'Homo antécessor, de l'Homo heidelbergensis?
Alors, il faut bien que vous compreniez que les différentes espèces qui sont présentes ici, ce ne sont pas des espèces biologiques.
Ah, hein, voilà.
Ce ne sont pas des espèces biologiques.
C'est ça ma question.
L'Homo georgicus, c'est les 5 individus qui ont été trouvés à Dmanisi en Géorgie. Et c'est tout. Homo antécessor, c'est une dizaine d'individus, enfin les restes osseux d'une dizaine d'individus qui ont été découverts dans un gisement en Espagne, le gisement de Grande Dolina, et qui correspondent donc à cette tranche de temps. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc en fait,
ils appartiennent tous à la même espèce, simplement ils ont été découverts dans un endroit différent, c'est ça qu'il faut comprendre.
Peut-être, mais pour essayer de mieux comprendre la façon dont les peuplements se sont mis en place, c'est plus simple de créer plein de petites boîtes et puis d'essayer ensuite de relier ces boîtes aussi bien par les chemins géographiques que par les traits évolutifs et d'essayer de comprendre comment on est passé de l'une à l'autre et comment ils ont évolué de la même façon ou différemment selon les espaces géographiques où ils se trouvaient. Voilà, c'est une facilité intellectuelle, si vous voulez.
Oui, c'était pour faire une chose que quelqu'un d'aussi sérieux que Dominique Grimaud n'osera pas faire, qui était le lien entre le biologique et le social. Puisqu'on est dans quelque chose, ici, un lieu qui relève à la fois de sciences dures, comme on dit parfois dans le contexte universitaire, de biologie, de paléontologie, et d'autre part de sciences sociales, que je n'oserais évidemment pas appeler molle. Mais il y a un rapport ici qu'on a vu avec quelque chose qui est l'enfance. C'est-à-dire que par les espèces humaines ou l'espèce humaine ou les différentes variantes ont une caractéristique, c'est d'avoir une très très longue enfance. Alors qu'elle est liée à la station debout, à la forme des hanches, à l'accouchement difficile, particulièrement difficile pour l'espèce humaine. Bon, je ne veux pas développer ça, mais il y a des raisons biologiques étroites. La grosse tête par rapport à au passage du bébé, c'est compliqué. Eh bien, le fait d'être prise en charge pendant très très longtemps, c'est un élément extrêmement fort de socialisation, dans la mesure où ce qu'on peut appeler le social, c'est-à-dire du culturel, n'est pas propre à l'espèce humaine. D'autres mammifères, des oiseaux, peuvent développer des caractères sociaux, des transmissions d'une génération à l'autre. Mais quand nous sommes la seule espèce, là je peux dire nous en l'occurrence, où les enfants sont présents de plusieurs portées, je peux dire, simultanément prise en charge par les parents, alors que les louveteaux, les chats, les chiens, etc., les oisillons, ne sont pris en charge qu'une portée à la fois. Et cette socialisation très très longue, c'est quelque chose qui nécessite un groupe d'hominidés, d'humains ensuite, extrêmement présent. Et là, on a la matrice de nos sociétés.
Je voulais préciser aussi que tous ces plateaux avec les restes humains sont présentés en relation avec leur évolution culturelle. Hein, vous avez des représentations de l'outillage, de l'évolution de l'industrie et également de leurs techniques de charognage, de chasse, etc. Hein, on n'étudie pas l'homme pour l'homme, on étudie toujours l'homme dans son contexte culturel, paléo-environnemental et géochronologique.
This version will soon be available. Please take back.
Si, c'est ta faute. J'étais cool, peinard, pendant 200 000 ans en Europe et t'as débarqué. Tu m'as pris mon territoire.
Alors là, mon petit, on sait rien.
Oui, toi, t'es encore là. Et moi, paf.
Alors là, il faut quand même voir Dominique Grimaud-Hervé qui vient d'expliquer à une très jeune visiteuse comment s'y prendre avec cette animation pédagogique. Et là, c'était bien le crâne que cette...
Un moulage.
Le crâne que cette petite fille...
Oui, c'est des dispositifs qui ont été faits pour les handicapés visuels, donc pour qu'ils puissent avoir une idée de l'évolution. Et donc, on a mis des moulages des différents crânes fossiles et on leur explique comment les toucher et pour qu'ils puissent sentir là où il y a des différences entre les espèces.
Alors, et vous vouliez nous montrer...
Je voulais vous montrer ce petit crâne de Flores qui est présenté ici et que vous voyez sur la frise que lui encore est contemporain des Homo sapiens et des Néandertaliens.
Et donc, attendez, ça veut dire qu'on est à combien d'années là ?
Là, on est à 60 000 ans à peu près.
À moins de 60 000 ans ?
Oui, bien sûr.
Flores en Indonésie actuelle, des îles d'Indonésie.
Voilà, tout à fait.
L'extinction, c'est quoi, moins 10 000 ? C'est aujourd'hui, c'est
voilà,
hier.
Voilà, exactement, c'est hier. Et alors donc, évidemment, on s'est posé la question de savoir d'où venait ce petit bonhomme, hein, puisqu'il mesure environ 1 mètre de stature. Sa capacité crânienne est d'environ 380 cm3. C'est tout petit, c'est comme un chimpanzé. Et donc, on se posait la question de savoir d'où il sortait. Donc, il y a eu plein d'articles, c'était un homo sapiens pathologique. Bon, tout ça, ça a été évacué. Et en fait, l'hypothèse qui est admise aujourd'hui par la communauté scientifique, c'est que l'Homo floresiensis est l'évolution sur place d'un Homo erectus. En effet, sur cette île de Flores, on a découvert un site, Matamengue, sur lequel il y avait une industrie qui date de 800 000 ans, sans restes humains, mais on avait cette industrie, donc preuve que les hommes étaient présents. Et vous savez que sur les îles, l'évolution est différente, hein, puisque toute la faune a une évolution différente de celle du continent. Par exemple, les éléphants qui sont gros et pour pouvoir se défendre sur le continent, sur cette île, sont tout petits. Et inversement, pour les rats ou les lézards, qui sur le continent sont tout petits pour se faufiler, pour ne pas se faire manger, qui sur cette île deviennent très gros. Et par exemple, on a le dragon du Komodo. Et donc, on a imaginé que le résultat de cette découverte, donc cet homme de Flores, était l'évolution sur place de cet Homo erectus.
Sur à peu près quel pas de temps, vous diriez ?
Eh bien, on ne peut pas savoir. On sait qu'on a cette industrie à 800 000 ans. Ensuite, on trouve ça, ces restes osseux. Et entre les deux, on n'a rien. On a des petits témoins géologiques dans le temps et dans l'espace. Et on essaye de relier tout ça pour comprendre. Mais on a des lacunes géochronologiques énormes. En Europe, entre 1,2 million et 800 000 ans, on n'a rien. Ici, en Asie, on a des Homo erectus, on a un groupe à 1 million d'années, un autre à 800 000, un autre à 100 000, et entre, on n'a rien non plus. Donc, est-ce qu'ils descendent les uns des autres ? Est-ce qu'ils proviennent de migrations successives du continent ? On ne sait pas. Et là, le problème est accentué avec cet homme de Flores, parce que l'île de Flores n'a jamais été reliée au continent. Contrairement à l'île de Java, qui a été reliée au continent par des ponts terrestres, par le phénomène des glaciations et des interglaciaires.
Dominique Grimaud, donc l'homme de Flores dont vous venez de nous parler, c'est un des, si j'ose dire, morceaux de choix de ce musée de l'homme. Et peut-être pouvez-vous juste, pour les visiteurs nombreux qui sont déjà là et les auditeurs qui peut-être viendront, je l'espère, nous dire dans quelle grande série d'objets célèbres l'homme de Flores s'inscrit.
Oui, chacun des moulages est un objet célèbre. Hein. Mais je voulais quand même finir en vous parlant de la chambre des ancêtres, où nous avons choisi de présenter les originaux de quelques hommes fossiles, collection du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui sont notre patrimoine et qui doivent donc être présentés à tous. Il y a donc les originaux des hommes modernes de la Dame de Cavillon, de Cro-Magnon et de l'Abripato, et aussi de 3 Néandertaliens, de La Chapelle aux Saints, de La Ferracie et de l'Enfant de Pêche de Lazée, qui sont donc des découvertes très célèbres.
Alors, pendant qu'on se rend donc dans le troisième espace, qui est « Où allons-nous ?», il y a quand même une question qui me vient pour vous deux. Vous êtes en train de nous expliquer, Dominique Grimaud-Hervé, Christian Grataloup, que l'une de ces particularités de ce nouveau musée de l'homme, c'est de prendre l'homme dans toutes ses dimensions, donc notamment culturelle, l'homme dans son environnement, comment l'homme évolue, on va dire, se socialise. Et je ne vois nulle part, on va dire, de plateau, de vitrine, d'objets, bref, de discours sur la différence de genre, qui est quand même pourtant un élément, je crois, à la fois central et fondamental.
à la fois de la socialisation et de la culture humaine, me semble-t-il. Et puis, dès lors qu'on est sur unité-diversité, qui est un peu le mantra de cette exposition permanente, on peut quand même se demander si la diversité qui s'impose à tous, en première instance, c'est bien celle de la différence des sexes. Alors, est-ce que j'ai mal vu, ou est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs pourquoi ce parti pris de ne jamais mentionner qu'il y a des hommes et des femmes ?
Ouais, bah, je veux bien répondre à la question, mais avant, puisqu'on est devant l'envolée des bustes, qui est quand même la pièce maîtresse de la muséographie de la Galerie de l'Homme.
Où on voit des hommes et des femmes, d'ailleurs.
Hein. Et justement, dans
expliquez-nous ce que c'est. Que cette
alors, ce sont des bustes, des moulages, qui sont dans des matériaux divers, l'essentiel étant en plâtre, qui ont été faits dans la seconde moitié du 19e siècle pour justement étudier, dans la perspective idéologique qui pouvait être celle du 19e siècle, donc des connotations éventuellement racistes, la diversité des hommes. Donc on a des gens de toute espèce et on a bien pris soin de diversifier et le plus possible d'équilibrer les genres, en l'occurrence. Hein. Donc vous avez cette extrême diversité qui, si on le regarde d'un tout petit peu loin, montre au contraire, je trouve, une extrême unité. Ces bustes se ressemblent finalement beaucoup plus, et c'est plus les modalités, les couleurs qui ont été mises dessus, qui sont peut-être un peu d'ailleurs exagérées, qui sont les plus frappantes. Mais ça a été mis en scène comme une envolée sur quelque chose qui évoque une portée musicale, avec l'idée qu'il y a des variations, mais qui sont symphoniques, dans l'intérieur du buissonnement humain. Je corrige, il ne faut pas dire que ce sont des espèces humaines.
Il n'y a qu'une
seule espèce humaine. Nous sommes effectivement, ce sont tous des sapiens. Là, il n'y a absolument aucune différence. Honte à moi d'avoir dit
mais leurs traits physiques sont différents.
Effectivement, il y a des nuances, extrêmement modestes dans la différence.
Ce qu'il faut retenir, c'est que l'origine est commune. Hein, nous sommes tous des Homo sapiens. C'est l'envolée de bus qui est présentée ici représente en fait la diversité biologique actuelle avec les adaptations morphologiques face à l'environnement.
Ma question sur les hommes et les femmes. Alors, il n'y a pas de discours dans le musée sur la différence entre les hommes et les femmes.
Le nom même du musée.
C'est comme si les gender studies n'avaient pas passé la porte du nouveau musée de l'homme.
Le nom même du musée a posé problème, puisque si le mot homme a une double connotation en français, la première c'est bien membre de l'espèce humaine, mais la seconde c'est mâle de l'espèce. C'était bien évidemment au sens de la première que le musée de l'homme, dès son origine, était intitulé ainsi. Mais le son va devenir feutré parce que nous sommes dans un environnement de feutre. Donc vous avez ce problème, c'est qu'on a pensé à parler de musée de l'humanité. C'est le mot qui avait été envisagé pour enlever la connotation genrée. Mais le nom même du musée de l'homme, en particulier à cause de son passé glorieux sur le plan scientifique. La liste des grands savants est absolument considérable. Mais passé glorieux aussi sur le plan politique, parce que Paul Rivet, qui est le fondateur du Musée de l'Homme, était un homme de gauche. C'est d'ailleurs une création du Front populaire, le Musée de l'Homme. Et dès 1940, ils l'ont prouvé, puisque ça a été le premier réseau de résistance à Paris, et que nombre de salles ici portent le nom des chercheurs et de la bibliothécaire.
Dont Germaine Tillon.
Alors, Germaine Tillon n'étant pas dans les fondateurs, mais ensuite, immédiatement,
qui était dans femme. Ce moment. Alors, c'est marrant, parce qu'il y a ici un centre de documentation Germaine Tillon.
Oui, donc tout à fait. Non, mais le soin a été pris. Alors, les salles portent le nom des gens qui ont été fusillés au Mont-Valérien, ça c'était les hommes, ou qui ont été déportés, ça c'était les femmes. Elles en sont d'ailleurs le plus souvent revenues.
Mais alors, pourquoi ce choix de ne pas parler de la différence des genres dans l'exposition permanente ?
C'est pas un objet central, mais c'est présent. C'est extrêmement présent, en particulier dans « Qui sommes-nous au départ ?», qui n'a pas été retenu pour l'émission. On commence justement par les problèmes de l'accouchement, par les problèmes de l'opposition sexuée et éventuellement de ses caractères sociaux. Et par ailleurs, ça ne disparaît d'aucune, comme on l'a vu sur le volet des bustes, ça a été au contraire un thème constant. Non, aujourd'hui, on ne peut pas. Je crois que c'est difficile d'attaquer le musée, même s'il s'appelle de l'homme, son côté qui serait franchement machiste. Non.
C'est pas ce que je voulais dire, Christian Grataloup. J'allais pas jusque-là.
L'homme avec un grand H. L'homme avec un grand H comprend la femme.
Ça, on l'a bien entendu. Alors, si vous le permettez, comme on arrive vraiment au terme de l'émission, il ne reste plus que quelques minutes. Je voudrais vous poser, disons, une autre question un peu critique. Ce n'est pas une attaque, ne le prenez pas comme ça. Je suis très sensible au fait que dans le musée, on parle beaucoup de la mondialisation et que d'une certaine manière...
Surtout dans la troisième partie.
Surtout dans la troisième partie. Hein. Mais en fait, tout le temps. Et me semble-t-il, la dimension, disons, économique est assez peu présente dans la muséographie. C'est-à-dire qu'il y a la mondialisation et la diversité sous son angle que j'appelle, faute de mieux, culturel, éventuellement social. Mais comment intégrez-vous le phénomène économique qui est, je crois, quand même à la base de la mondialisation ? Christian Gratalou.
L'agriculture n'est-elle pas économique ?
Alors,
nous sommes devant une vitrine qui représente la naissance de l'agriculture. Avec, entre autres, une superbe broyeuse à graines de manière technique extrêmement ancienne, hein, une planche avec des petits galets insérés. Mais nous sommes bien en pure pratique économique. Alors, effectivement...
Vitrine qui s'appelle « Domestiquer les plantes et les animaux voilà. » pour indiquer notamment... la place de choix qui est faite dans ce musée à la révolution néolithique, considérée comme la bifurcation majeure.
Oui, la bifurcation majeure sur le plan social, effectivement. Mais on est donc en pleine technique. Alors, c'est assez logique, puisque les restes, les objets qui peuvent subsister, sont des objets qui sont en général à caractère technique. Donc, que toute l'activité économique soit vue d'abord par ce lien technique, c'est assez évident. Mais on a tout un environnement, ça sera particulièrement net dans la troisième partie, où les interrelations entre les hommes sont évoquées, y compris dans leur dimension financière. Donc, qui a son aspect technique, bien évidemment. Mais enfin, il n'y a pas une vitrine sur la monnaie.
C'est vrai, voilà.
Nous arrivons dans la troisième partie.
Et avec une vitrine qui vous tient particulièrement à cœur, Christian Gratalou, qui est celle qui mêle les anoraks et les téléphones portables.
Oui, c'est une manière très simple, très pédagogique de dire on est à la fois dans un monde uni, qui est mondialisé, le monde, mais... il génère constamment de la diversité, ce qui fait que devant nous, il y a une chose très très simple, qui est un petit téléphone portable, aussi simple que celui que nous avons dans toutes nos poches, et les petites enveloppes dans lesquelles nous les mettons pour les protéger, qui viennent là du monde entier, et qui représentent une diversité culturelle absolument charmante.
Et juste derrière, et on peut même dire en transparence à travers cette vitrine, on a une grande animation vidéo, en particulier donc sur la transition démographique.
Alors, c'est une animation vidéo qui résume l'histoire de la construction du monde en 8 minutes. Donc, c'est pas très évident, c'est très simplifié, mais c'est un mur d'écran. Il y a 6 écrans différents, avec un écran principal qui part depuis le néolithique et qui nous emmène jusqu'à la mondialisation contemporaine et à Internet. En passant par différentes étapes, bien sûr, les Européens y reconnaîtront ce qu'on a appelé les grandes découvertes, mais il y a aussi les voyages des Polynésiens, les voyages des Chinois, justement, la volonté que ce ne soit pas eurocentré. D'où un souci qui est constant dans le musée, que les planisphères utilisés ne soient pas le planisphère eurocentré, orienté au nord, traditionnel. Et là, vous avez entre autres un basculement de planisphère constant qui permet de passer d'une vision centrée sur le Pacifique à une vision centrée sur l'Amérique, etc.
Eh bien, on en restera, Christian Gratalou et Dominique.
C'est dommage qu'on puisse pas dire deux mots du magnifique petit autobus sénégalais. Mais...
alors, allons-y.
Voilà, juste pour dire qu'on a transporté de Dakar ce petit autobus qui
Alain,
est...
Alain Epelboin, je crois, qui en est l'un des...
Voilà, et tout à fait.
Et
c'est un Saviem, c'est un Renault, quoi, qui a été fabriqué, mis, monté à Dakar, qui a servi tout à fait abondamment et qui avait une caractéristique, c'était des vitres qui étaient remplacées par des images des voyageurs. Et on a fait quelque chose qui est très chouette, c'est qu'on peut monter dedans et que derrière les vitres, nous avons des vidéos qui montrent les paysages que l'on voyait depuis le camion. Alors, dans ce camion, il serait là, il nous faudrait toute une émission pour le décrire très concrètement, parce que vous avez tout un tas d'objets, des objets qui montrent de porte-bonheur, par exemple, pour qu'il n'y ait pas d'accident sur la route, et qui montrent que, justement, on est un objet mondial et en même temps extrêmement local.
Alors, on en restera sur cette double évocation, Christian Gratalou, d'une part de l'objet mondial qui est en même temps un objet local. Et puis, ce que vous disiez à l'instant sur l'importance d'avoir décentré notre regard pour ne pas donner le sentiment que ce musée était européo-centré, avec donc des planisphères différents. Néanmoins,
on a en face de nous un objet local qui est extrêmement mondial.
Voilà, qui est la Tour Eiffel. On a une vue absolument magnifique et c'est sans doute un des grands plaisirs de la visite du nouveau Musée de l'Homme que d'être à la fois dans le Musée de l'Homme et en même temps projeté vers la Tour Eiffel et sur Paris. En tous les cas, cette émission, donc visite du nouveau Musée de l'Homme sur les traces de l'espèce humaine, touche à son terme. Dominique Grimaud et Hervé, Christian Grataloup, je vous remercie vraiment beaucoup de nous avoir emmenés dans ce nouveau lieu. Cette émission, donc, elle est podcastable pendant un an. Elle est écoutable en ligne pendant 1000 jours. Et le musée, lui, est ouvert tous les jours, sauf le mardi, jusqu'à 18h. Sachant qu'il y a une nocturne le mercredi jusqu'à 21h. Et donc, il se trouve dans le palais de Chaillot, sur l'esplanade du Trocadéro. Il faut descendre à la station de métro. Trocadéro. L'esplanade des droits de l'homme maintenant. Et on a bien compris qu'on était dans un lieu qui était une ode à la diversité et aux droits de l'homme. Et donc, qui fait vraiment triptyque hein, avec le musée du Quai Branly et la cité de l'immigration. Merci à toute l'équipe. Catherine Madure, Luc-Jean Reynaud, Thomas Robin et la documentation sonore qui ont puissamment contribué à la réalisation de cette émission. Demain, jeudi à 16h dans Culture Science, ne manquez pas la marche des sciences d'Aurélie Luneau. Et puis dans un instant, comme chaque jour, vous retrouverez Hervé Gardette pour le 5 à 7.